tu poses à introduire ça, c'est que dans tout votre exposé de ce que vous disiez, débat ou ce qu'on veut, au fond, le mot inconscient n'est pas prononcé. Alors, ce n'est pas parce que c'est de la psychanalyse qu'il faut absolument faire de la psychanalyse ici. C'est que c'est important de comprendre que c'est totalement inconscient. Mmh. C'est ça. C'est pas effectivement quelqu'un qui l'a voulu. C'est pas. Alors, effectivement, la question, c'est comment articuler ça au fait qu'à un moment donné, c'est un certain nombre de personnes, c'est lié au pouvoir. Voilà. C'est le lien. Comment articuler le lien entre pouvoir et inconscient? Parce que à partir d'un moment, les gens qui ont le pouvoir, c'est tout à fait conscient qu'ils veulent écraser les autres et le garder, accumuler les richesses, etc. Mmh. Ce qui est inconscient, parce que moi je n'ai pas pu repérer, c'est ça, on dit introduit, c'est comment ça se. Ça envahit la scène du monde. Parce que c'est toujours là, cette volonté d'écraser.
Ça l'envahit de deux manières. D'abord, il ne faut pas négliger l'histoire dans cette histoire. Parce que, en général, bon, quand je lis l'histoire, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une excellente formule qui est dans Sam Jack pour décrire l'essence du capitalisme, qui est la suivante, c'est la valorisation de la valeur. C'est-à-dire, c'est un système automate, en fait. C'est-à-dire, ce qui importe au capitalisme en tant que système, c'est de faire de 100 euros 120, de 120 140, etc., etc. Et de l'autre côté, c'est ça, la question de la triple alliance que je vise, moi, vers 1850. C'est un système automate, le communisme. Il y a une accumulation primitive. Je parle de la matérialité
déjà,
des choses.
C'est déjà un stade élaboré, ça. Je veux dire, le stade du capitalisme, je veux dire, la constitution de la valeur, c'est même pas ça. C'est même pas ça.
Bon, après, il faut revenir.
Alors, la constitution de la valeur, si. C'est-à-dire que, comme pour le pouvoir, il y a eu des sociétés de pouvoir et de pouvoir écrasant, dictatorial et tyrannique qui n'ont pas développé le capitalisme. Je veux dire, l'Antiquité a connu des empires féroces avec des castes dominantes, des castes de prêtres et de guerriers, et ils ne développaient pas le capitalisme. Ouais. Il y avait déjà la notion de valeur, effectivement, puisqu'il y avait circulation monétaire.
Absolument.
Donc il y avait de la valeur, on pillait, on s'enrichissait.
Il y a de la valeur sans monnaie aussi. Même le troc, il est fondé sur une valeur, parce que
à ce moment-là, c'est...
on échange quelque chose qu'on considère comme ayant la même valeur.
C'est-à-dire d'usage.
D'usage, absolument. Mmh. Alors, mais il suffit qu'un bien soit plus rare, et voilà.
Ça n'est pas. Voilà, la valeur supposée. Mais.
La valeur supposée.
La grande différence entre le capitalisme et la simple circulation marchande, on pourrait dire que toutes ces sociétés antiques, par exemple, étaient des sociétés de circulation marchande simple, où effectivement, les classes dominantes, par exemple, cherchaient à s'enrichir, voire même.
Avant les classes.
Voilà. Mais la dépense, après, était une dépense somptuaire. Une dépense de prestige ou une dépense qui servait à accroître le pouvoir, etc. Mmh. Le principe du capitalisme est tout à fait autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agit plus d'amasser simplement somptuairement, mais que la valeur elle-même devienne agent de son propre accroissement. C'est ce que, effectivement, qu'on a... C'est Marx qui a mis ça en valeur. Hein. C'est la valeur qui se valorise de manière, finalement, automatique. Et il y a un sujet automate, bon, qui est développé beaucoup par le courant de critique de la valeur, qui montre bien que ça échappe même à la volonté. Il ne s'agit pas de dire que c'est parce que les capitalistes sont méchants ou cupides, ce qu'ils sont par ailleurs, mais que ça n'est pas la raison. C'est pas parce que Bill Gates veut avoir plus de sous, voilà, ni Trump ni compagnie. C'est que derrière, il y a un processus qui est plus fort que les individus, voilà, qui est cette valorisation de la valeur.
Et qui fait aussi que quand des businessmen veulent mettre une marchandise en vente, il y a un facteur qui est super important, qui est ce qu'on appelle le prix psychologique. Prix psychologique, on vend un bouquin et on se dit, ah non, il vaut 5, mais si je le mets, comme les gens pensent que ça vaut beaucoup, je vais le vendre plus.
Ça n'a rien à voir avec le capitalisme, le prix psychologique. C'est dans toutes les sociétés.
J'aurais juste attiré votre attention sur une chose. Bernard, j'aurais juste attiré votre attention sur une chose qui n'est pas avancée par la critique de la valeur. Ça va me demander 2 minutes. Au fond, on peut dire que le capital, à travers ça, son essence, c'est de réduire toute chose et le vivant à une marchandise, c'est-à-dire quelque chose ou à une variable d'ajustement, plus exactement, de façon à ce que ça circule le plus rapidement possible, une abstraction. Et de l'autre côté, le mode de connaissance scientifique, qu'est-ce que c'est ? Le mode de connaissance scientifique, c'est un essai de transcription du réel ou d'une région du réel par une abstraction commensurable. Par exemple, E égale MC2. Il y a donc là, entre les deux, entre le capitalisme et le mode de connaissance scientifique, ce que j'appelle une isomorphie structurelle. Et alors, personne ne l'a décidé cette isomorphie structurelle. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre. Oui.
Excusez-moi, un isomorphisme entre quoi et quoi ?
Entre l'objet du capital et l'objet du mode de connaissance scientifique. C'est-à-dire réduire tout le vivant à une abstraction. Ça, c'est très très important. Ah bah oui.
Le principe du capitalisme, c'est quand même, il est dominé par la notion de travail abstrait. C'est-à-dire, peu importe les qualités concrètes du travail, qu'on fabrique des bouquins, un stylo ou une table, peu importe. C'est tout ça peut être ramené à la quantité de travail nécessaire à sa fabrication. C'est le principe, c'est abstrait de ces conditions concrètes de réalisation. Le capitaliste individuel ou le capitalisme dans son système se fout éperdument de ce qu'il produit.
Et l'abstraction scientifique, alors ?
Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous voulez rendre compte du réel ou d'une région du réel, vous en rendez compte avec quelque chose qui est une formule abstraite. Et donc, ce que je dis là, c'est qu'il se produit un phénomène. Ça, il faut étudier l'histoire du 19e siècle, c'est fondamental. C'est-à-dire, entre 1850 et 1900, il y a là la conjonction de ces trois choses, en plus du fait que le colonialisme est aussi prépondérant, enfin, à son stade ultime, à la fin de ce siècle, qui a la création des bourses internationales. Bien, ce qui me fait dire, moi, qu'à cette époque-là, se cristallise aussi dans les populations occidentales, un imaginaire qui est structuré par la rationalité calculatrice, qui est pour moi différent de ce qu'avance Heidegger dans sa formule de la raison calculante avec laquelle je suis entièrement en désaccord. C'est à mon avis là que peut se repérer la résonance qu'il y a entre chacun de nous et le capitalisme qui, dans sa forme en tout cas thermo-industrielle, c'est pas un hasard que j'emploie thermo-industriel, c'est-à-dire c'est le feu, thermo c'est le feu, c'est-à-dire l'emploi du charbon à ce moment-là, qui va engendrer un stade de développement, une rupture même dans le stade de développement du capitalisme. Et donc, ça c'est pour moi très important à comprendre, et c'est pour ça. Si on peut revenir avec la question que je me posais sur Auschwitz, aujourd'hui par exemple, il faut bien essayer d'aller dénicher ce qui en nous, ce que le capitalisme a d'écho en nous, pour le dire d'une manière un peu maladroite, quoi. Parce que c'est là où ça tient aussi. C'est là où ça tient. Parce qu'un ordre, comme je disais tout à l'heure par rapport au nazisme, un ordre ne tient pas uniquement par la contention. Après, il y a d'autres choses que je n'ai pas résolues là. C'est que ce que je dis moi maintenant de la guerre, qui n'est même pas dans le livre là, de la guerre de 14-18, pour moi, la guerre de 14-18, c'est une espèce de prolétarisation de la mort. C'est-à-dire, j'emploie à ce mot à dessein, prolétarisation de la mort. C'est-à-dire, comme on pouvait dire, la prolétarisation des individus dans les fabriques, c'est un dessaisissement profond de l'être. D'ailleurs, de ce côté-là, on va déjà vers la variable d'ajustement. Quand il y a un dessaisissement de l'être dans la prolétarisation des individus, on va déjà vers ça. Mais pour moi, 14-18, à travers cette guerre industrielle et totale, c'est une prolétarisation de la mort. C'est un dessaisissement même de la mort. Ce qui est quand même important, parce que on sait aussi, par les archéologues et les historiens, que la conquête du feu, les sépultures, le langage articulé, les croyances, le langage articulé, tout ça fait partie des premières étapes de l'hominisation. Donc, être dessaisi de la question de la mort, comme ce fut le cas entre 14 et 18, c'est quelque chose qui est quand même très très important. Alors ce que j'ai pas résolu, à ce jour en tout cas, c'est entre ce que j'appelle là, ce qui se produit entre 14 et 18, c'est-à-dire ce dessaisissement de la mort ou cette prolétarisation de la mort, et l'analyse que je fais du stade nouveau du capitalisme à partir de 1945, c'est-à-dire cette guerre généralisée au vivant qui a aussi à voir avec la mort, quoi.